pouvons reprendre pour répondre à une question qui vient de m'être posée. Intifada, c'est soulèvement, hein, tout simplement. Et je rappelle que nous avions vu que le mot intifada avait été très utilisé durant la guerre du Liban. Il y avait eu toute une série d'intifadas, l'intifada chiite, l'intifada chrétienne, et ainsi de suite dans les années de la guerre du Liban. Sinon, l'autre référence a été l'un des grands mouvements de protestation contre les Britanniques en Irak à la fin des années 40, qui a été aussi appelé l'intifada. Donc, ce n'est pas un terme neuf, même si, évidemment, ici, il va entrer dans l'usage courant, dans la langue internationale. Donc, nous allons voir maintenant la naissance du Hamas. Je vais même vous montrer le faire-part. Voilà, vous avez le faire-part à l'écran. Mais je reconnais qu'il est difficilement lisible à cette distance. Mais on peut dire... Voilà, enfin, je vous montrerai ensuite. Le fait est qu'à partir de janvier 1988, l'OLP semble avoir pris le contrôle du soulèvement afin de s'en servir pour obtenir la reconnaissance par les États-Unis et les autres grandes puissances de son rôle de seul représentant du peuple palestinien dans les négociations à venir. Autrement dit, la démarche de l'OLP est une démarche qui s'intègre dans un programme politique de négociation. Sur le terrain, la coordination est difficile à maintenir du fait même de la vigueur de la répression israélienne et des difficultés de communication créées par les couvre-feux et les multiples entraves aux déplacements. Néanmoins, la liaison entre le commandement unifié et Tunis a pu être établie comme l'organisation du boycott de la visite de Schulz le montre. On peut donc présenter le soulèvement comme un vaste mouvement national regroupant toutes les composantes palestiniennes, y compris les islamistes, et se reconnaissant dans l'OLP. Si les frères musulmans se sont présentés ensuite comme les instigateurs du soulèvement, les choses ne sont pas passées aussi simplement. S'impliquer directement signifierait mettre en danger toute l'infrastructure sociale mise en place les années précédentes. Mais en même temps, ne rien faire serait laisser la place au djihad islamique et à l'ONP. Une solution temporaire a donc été utilisée au début en signant « Résistance islamique Palestine », terme emprunté au contexte libanais. Puisqu'il y a déjà une résistance islamique qu'est le Hezbollah au Liban. L'étape suivante consiste à séparer les activités caritatives de la résistance et d'engager le djihad. Il faut plusieurs semaines de consultation pour prendre la décision définitive, d'où l'absence de communiqué de la résistance islamique entre le 22 janvier et le 11 février 1988. La nouvelle organisation reprend les initiales du mouvement de la résistance islamique, Harakat al-Mukawama al-Islamiyya, qui vocalisait Don Hamas, donc vous voyez ici la signature Harakat al-Mukawama al-Islamiyya et le terme Hamas ici, qui est la reprise vocalisée des initiales et qui en même temps signifie zèle, enthousiasme. Donc c'est dans ce document non daté, mais qui apparaît vers la mi-février, que le mot Hamas apparaît pour la première fois. Ce document part du vécu de la population palestinienne. Une armée suréquipée fait la guerre à notre peuple captif et sans défense. Les chars, les blindés, les avions pourchassent les isolés. Les grenades sophistiquées toxiques sont jetées sur la foule de notre peuple, tantôt par les avions, tantôt par les soldats. Le couvre-feu est imposé sur les villes, les camps de réfugiés et les villages. Les maisons sont forcées la nuit comme le jour, et les meubles de certaines d'entre elles sont complètement détruits. Ils épouvantent les femmes, ils terrorisent les enfants, les traquent, les emprisonnent et les torturent. Ils profanent les mosquées et lancent des bombes asphyxiantes contre ceux qui s'y prosternent pour la prière. Ils tuent les jeunes dans leurs maisons, dans les carrefours, et les jettent ensuite parmi les arbres. Ils prennent les enfants en otage et brisent leurs membres. Ils ferment les universités, les écoles et les institutions scientifiques. L'usurpateur a montré sa cruauté, a dévoilé sa vraie nature et a ôté la bride à sa poigne de fer pour condamner à mort la liberté et l'honneur de notre peuple. Ces atroces pratiques, signe après signe, preuve après preuve, manifestent la haine et l'iniquité des Juifs. Donc voilà, on part du vécu de la population, du vécu quotidien, de la répression et de la main de fer prônée par Rabin. Alors, pour faire face à l'oppression, on mobilise les référents religieux et les citations du Coran, comme « Dieu sauvera ceux qui l'assistent, Dieu est en vérité fort et puissant ». Le communiqué suivant, le 23 février, appelle au boycott de Schulz, car ce sont les États-Unis qui fournissent les armes utilisées contre le peuple palestinien. On s'oppose à toute solution de liquidation. C'est dans le troisième communiqué du Hamas, daté du 3 mars, que l'on commence à prendre des distances par rapport à l'OLP, jamais cité nommément. Je cite. « Aujourd'hui, le complot américain réapparaît pour faire avorter votre soulèvement musulman par l'intermédiaire des rois, présidents et dirigeants arabes sous de fallacieux slogans comme « La paix en échange de la terre » ou « L'ombrelle de la conférence internationale ». Sous cela n'est-il pas qu'un mirage, une feinte, un tour de passe-passe au regard de votre soulèvement et de vos projets ?» Fin de citation. Le contraste est net avec le commandement unifié qui, lui, appelle à la conférence internationale avec une participation de l'OLP à un rang égal avec les autres partis. Ces communiqués du commandement national sont maintenant signés OLP, commandement national unifié du soulèvement. De même, le communiqué numéro 10 du commandement unifié, le 10 mars, s'adresse à l'ensemble des hommes épris de liberté dans le monde, y compris les forces progressistes en Israël, tout en s'en prenant à la politique jordanienne. Je cite. Resserrer l'étreinte des masses sur l'armée d'occupation et ses colons, ainsi que sur les collaborateurs et les hommes de main du régime jordanien. Nous sommes fiers des exploits de notre peuple qui les a châtiés, les a contraints à faire marche arrière et à faire l'annonce de cela dans les mosquées, les églises et les comités populaires. Nous appelons également les députés du Parlement jordanien investis par le roi pour représenter notre peuple à annoncer leur dimension immédiate et leur retour parmi les rangs de notre peuple. Sinon, il n'y aura plus de place pour eux sur notre terre. » Fin de citation. Si les consignes du Hamas et du commandement unifié sont en général de même nature, c'est-à-dire la désobéissance civile, le programme politique diffère. Pour le Hamas, il n'est pas question de céder un atome de la terre de Palestine et le juif est un ennemi éternel, comme le montre son communiqué du 13 mars 1988. Je cite, « Nous réaffirmons à notre peuple et au monde notre position concernant la conférence de la paix et notre réponse à tous ces beaux parleurs et rêveurs qui veulent la réunir, non à la paix avec l'entité sioniste. 1. Parce que leur nature est la tergiversation et la cupidité. Taba fournit un bon exemple de la tergiversation des années de négociations des bulles pour résultat. Les délégations, elles, n'ont pas arrêté de se rencontrer et Taba ne reviendra pas par des pourparlers. 2. Parce que Dieu, en ce qui les concerne, n'a pas écrit de paix sur la terre. » Citation du Coran. « Souvenez-vous, ton Seigneur a proclamé qu'il enverrait contre eux quelqu'un qui leur imposerait un dur châtiment jusqu'au jour de la résurrection. » Alors, fin de citation. « Alors, où donc est la paix durable ? Où donc est la justice s'il possède un seul pouce sur les rivages de Haïfa et d'Acre et que son propriétaire est dans un des camps du Liban ? De Cisjordanie, de Gaza ou de Jordanie. Quelle justice disperse celui qui est dans son droit et accorde la souveraineté à l'usurpateur ? Que soit coupée la main qui cédera un seul atome du sol de Palestine aux ennemis de Dieu et accordera la souveraineté à nos ennemis sur la terre du voyage nocturne et de l'ascension du prophète, la terre bénie. » Fin de citation. Le nouveau mouvement se dote d'une infrastructure clandestine et refuse l'affrontement avec l'OLP, qu'ostensiblement il ignore. Arafat, de son côté, tente de l'intégrer dans la mouvance de l'OLP et agit dans ce sens auprès des bailleurs de fonds des islamistes dans le Golfe. Une situation de concurrence s'installe entre les deux forces politiques qui ont l'intelligence politique de se ménager mutuellement. Le Hamas à l'ONP ne rejettent pas le principe de la lutte armée, mais s'en tiennent à la logique du soulèvement avec l'interdiction implicite de l'usage d'armes à feu et le principe de la désobéissance civile et de toute suggestion à l'autorité israélienne. Si les jets de pierre et de cocktails Molotov sont quasi quotidiens, on ne va pas plus loin dans l'usage de la violence. Paradoxalement, la première année du soulèvement verra moins de tués israéliens attribués à des actions venant directement des territoires que les années précédentes. À Tunis, Abou Jihad a l'intelligence tactique de s'en tenir à cette ligne d'action que certains vont jusqu'à définir comme non-violente, ce qui est parfois un peu contestable sur les définitions de la non-violence. À la fin février, on est à plus de 70 Palestiniens tués depuis le début du soulèvement. En Israël, ce soulèvement a pour conséquence la création d'une différence entre les colons exposés aux jets de pierre et aux cocktails Molotov et le reste de la population qui n'est pas exposée au soulèvement, sauf pour ceux qui effectuent leur service militaire. Les colons exercent différentes représailles sur la population, plus ou moins tolérées par l'armée israélienne, ce qui accroît ainsi l'intensité de violence dans les territoires. Les colons accusent aussi l'armée et le gouvernement de mollesse envers les Palestiniens. À l'extérieur, l'OLP tente de maintenir une pression sur Israël. Le 4 février, un commando venu du Liban réussit à passer en Israël et à tuer deux soldats israéliens avant d'être éliminé. Mais on est là plutôt dans la logique du dossier palestinien, du dossier libanais, pardon, et Rabin lui-même refuse d'y voir un lien avec le soulèvement. Le ministre de la Défense alterne les propos contradictoires sur le rôle de l'OLP, lui niant puis lui attribuant un rôle moteur dans le soulèvement. L'OLP veut lancer une opération spectaculaire à but médiatique. L'envoi d'un bateau de retour dans la bande de Gaza ramenant des réfugiés et des bannis palestiniens, une sorte d'exodus palestinien. Cette opération scandalise le gouvernement israélien. Pour Shamir, le 11 février, je cite, « Le slogan même du retour utilisé par les Arabes équivaut à une déclaration de guerre contre notre peuple et l'État d'Israël. On veut nous voler jusqu'à notre idéal, celui du retour dans notre patrie. » Fin de citation. Pour Peres, je cite, « Cette opération est l'expression du nazisme sous une autre forme. Ce navire emporte avec lui des Palestiniens aux mains salies par du sang juif. » Fin de citation. Le bateau arrive jusqu'à Chypre. Le 14 février, trois cadres du Fatah chargés des relations avec les territoires sont tués à Chypre dans l'explosion de leur voiture. Il semblerait que c'était eux qui faisaient la jonction avec le djihad islamique. Le lendemain, c'est le bateau lui-même qui est gravement endommagé par une explosion. Pour le porte-parole de l'OLP, je cite, « Rien n'engage plus désormais l'OLP à respecter les déclarations du Caire. Israël doit savoir qu'après ce terrible meurtre suivi lundi par l'attentat criminel contre le bateau civil, devant ramener les expatriés palestiniens chez eux. Donc l'OLP n'a pas les mains liées et qu'il n'est pas inconcevable qu'elle continue de respecter unilatéralement la déclaration du Caire. » Un autre front diplomatique est la fermeture du bureau palestinien auprès de l'ONU à New York, conformément à une décision prise par le Congrès américain. L'ONU considère que c'est contraire à l'accord de siège qui fixe son statut dans la ville américaine. Les pays arabes obtiennent une convocation de l'Assemblée générale pour discuter du dossier et Israël et les États-Unis se retrouvent complètement isolés dans les différents votes. L'affaire est portée devant les tribunaux américains qui, au bout de plusieurs semaines, donneront raison à l'ONU et aux Palestiniens. Et donc le bureau de New York ne sera pas fermé. Par contre, celui de Washington a été fermé. Le 7 mars, un commando palestinien de trois fédayines se revendiquant de la force 17 d'Arafat procède à une prise d'otage dans un autobus à proximité de la centrale nucléaire de Dimona dans le Negev. L'armée israélienne lance l'assaut. Le bilan est lourd. Outre les trois membres du commando, trois Israéliens sont tués et huit blessés. Les réactions habituelles suivent. Le gouvernement israélien assimile cet acte de terrorisme au soulèvement et accuse l'OLP de vouloir torpiller le processus de paix. Dans les territoires, l'action est plutôt bien reçue. Au début du quatrième mois de soulèvement, on est à 86 tués palestiniens, avec depuis février une moyenne de 1 mort par jour. Pour la première fois, le 20 mars, un soldat israélien est tué par balle à Bethléem. Une vaste chasse à l'homme est organisée. On procède au dynamitage de maisons abritant des adolescents jugés coupables d'avoir jeté des cocktails Molotov et on multiplie les pressions sur la population. Il s'agit de remettre les territoires à l'heure israélienne, c'est-à-dire de montrer qui est le maître. En même temps, des raids aériens ont lieu contre des positions palestiniennes au Liban. Pour la première fois, semble-t-il, le groupe Abu Nidal se trouve visé en même temps que d'autres mouvements palestiniens. Au début d'avril, une véritable guerre civile dans la guerre civile oppose le Liban, Hamas et le Hezbollah pour la maîtrise du Liban Sud. Lors du jour de la Terre, le 30 mars, les territoires sont complètement coupés du monde extérieur. Le bilan de cette épreuve de force est de 5 morts palestiniens et d'une soixantaine de blessés. Le 6 avril, pour la première fois, un civil israélien, une fillette, est tuée par un jet de pierre dans les territoires lors d'un incident qui fait aussi 2 morts palestiniens. L'affaire est confuse, mais il ressort qu'il s'agissait d'un groupe d'adolescents appartenant à une colonie juive qui faisait une excursion et qui s'est égaré dans un village arabe près de Naplouse, Beïta. Affolés, les accompagnateurs ont tiré, faisant les 2 morts arabes, puis il y a eu les jets de pierre. C'est-à-dire que les jets de pierre ont eu lieu après le tir des gardiens et pas avant. Les autres enfants ont été sauvés par les habitants du village. Les colons appellent à la vengeance. Lors des obsèques, là vous avez des photos des obsèques, les Shamir va plutôt dans leur sens. Je cite « Que Dieu venge le crime, le cœur du peuple tout entier bout de colère. Chaque assassinat ressoude les rangs du peuple, les lie encore plus à cette terre. » Fin de citation. Plusieurs maisons sont détruites par l'armée israélienne qui brutalise la population du village. L'autopsie montrera plus tard que la fillette, que la jeune fille de 15 ans, a été tuée d'une balle tirée par l'accompagnateur et non pas morte du jet de pierre. Le 11 avril, les Israéliens expulsent dans l'indifférence générale 8 habitants des territoires. Les États-Unis opposent leur veto à une résolution du Conseil de sécurité condamnant de nouveau les pratiques israéliennes dans les territoires occupés. Bien évidemment, la campagne électorale en cours aux États-Unis explique cette décision, puisque nous sommes en 1988, c'est une année bissextile, et donc une élection présidentielle américaine. Au début du cinquième mois de soulèvement, on est environ 138 tués, alors qu'un calme précaire semble s'installer. Près de 5000 Palestiniens sont détenus dans les prisons israéliennes. C'est à peu près à ce moment-là que le mot « intifada » semble être entré dans l'usage courant de la presse internationale. C'est à ce moment-là toujours, le 16 avril, qu'un commando de 9 personnes assassine à Tunis, Khalil al-Wazir, à Abu Jihad, 2 gardes du corps et un chauffeur tunisien. L'opération a nécessité environ une quarantaine de personnes. C'est immédiatement une explosion de violence dans les territoires qui fait 19 morts et une centaine de blessés. Israël officieusement reconnaît l'assassinat en représailles de l'attentat de Dimona, mais précédemment, il y a eu les assassinats de 4 de Fatah à Chypre. Surtout, Abu Jihad était l'inspirateur à Tunis de la ligne de non-usage des armes à feu en coordination avec le commandement unifié et les personnalités de Jérusalem. Il n'avait envisagé un passage à la lutte armée que pour une éventuelle seconde phase du soulèvement. Le risque est donc de voir un passage au soulèvement armé, tentation à laquelle semble succomber le commandement unifié dans son communiqué numéro 20, du 22 avril, célébrant le martyr d'Abu Jihad. Je cite « Nomas, frère de notre martyr symbole, Abu Jihad et de tous les saints martyrs, davantage encore de dons, davantage encore de sacrifices, davantage encore d'unité nationale et de cohésion. Servez-vous davantage encore de toutes les possibilités, capacités et énergies. Jetez davantage encore des pierres sacrées de Molotov et multipliez les coups d'une main de fer sur le corps avaché de l'entité fasciste. Que la terre tremble sous les pieds de nos envahisseurs. Les torrents du sang palestinien, en effet, ne se tairont jamais. Nous jurons à notre martyr héros, Abu Jihad, et à tous nos saints martyrs que le jour viendra où la Kalachnikov se fera entendre dans chaque contrée de la Palestine, dans chaque village, chaque camp de réfugiés pour mettre fin par ses balles au fascisme sioniste et pour que notre peuple récupère ses droits nationaux légitimes avec le leader de son combat, l'OLP. Le pacte est le pacte et le serment est le serment, que ce soit la victoire ou le martyr sur la voie de la Palestine libre et indépendante, nous allons vers la victoire. Le 19 avril, 8 Palestiniens, dont 6 habitants de Beïta, sont expulsés au Liban. Si l'assassinat d'Abu Jihad remonte le moral des Israéliens et s'inscrit dans une pratique remontant aux années 1930, il ne change en rien à la situation sur le terrain, sinon en augmentant la haine et en démontrant la popularité de l'OLP dans les territoires. On s'en tient à la ligne définie par Abu Jihad de ne pas passer au soulèvement armé. À long terme, l'élimination de la direction historique du Fatah ne fera que renforcer la position d'Arafat, qui n'aura plus de compétiteurs disposant d'une base politique à l'intérieur du mouvement, puisqu'il y avait un certain nombre de leaders historiques du Fatah et qu'ils vont tous mourir les uns après les autres de mort violente, à l'exception d'Abou Mazen. Et à chaque disparition, c'est le contrôle d'Arafat sur l'organisation qui se renforce. La Syrie fait le geste de proposer que les funérailles d'Abu Jihad aient lieu à Damas, lieu de résidence de ses parents. Cela permet à Arafat de se rendre dans la capitale syrienne et de s'entretenir avec Hafez al-Assad. Même si le geste est spectaculaire, il ne change rien au conflit entre l'OLP et la Syrie. Dans l'immédiat, Arafat radicalise sa position, semblant aller dans le sens de la Syrie en condamnant des projets américains. Au Liban, les combats reprennent entre les partisans d'Arafat et les descendants du Fatah pour le contrôle des camps. Chaque parti veut se mettre en position de force dans le cadre de l'éventuel rapprochement entre l'OLP et la Syrie. Une nouvelle guerre des camps dure jusqu'à l'été 1988 avec la victoire des dissidents soutenue par l'armée syrienne. Les Palestiniens tentent par ailleurs de reprendre leurs infiltrations en Israël à partir du Liban Sud. Au début du mois de mai 1988, l'armée israélienne lance une vaste opération de ratissage dans cette région, c'est l'opération Loi et Ordre. Une bataille rangée oppose les combattants du Hezbollah et les soldats israéliens dans le village de Meydoun. 3 soldats et une quarantaine d'Arabes sont tués selon le bilan israélien. Le village est ensuite totalement rasé par l'armée israélienne et l'ALS. Des deux côtés, on se déclare victorieux, mais ce qui est à noter est la montée en puissance du Parti de Dieu qui n'hésite plus à s'opposer frontalement aux Israéliens. Dans la foulée, le Hezbollah chasse à mal une grande partie de la banlieue sud de Beyrouth au prix de violents combats. Comme dans d'autres épisodes de la guerre civile libanaise, ces affrontements entre gens de la même communauté font plus de victimes que ceux entre communautés différentes. La Syrie et le Liban, patron supposé des deux mouvements antagonistes, se précipitent pour imposer leur médiation. L'armée syrienne pénètre dans la banlieue sud pour établir l'ordre, mais le Parti de Dieu conserve le contrôle effectif de cette partie de l'agglomération de Beyrouth. Profitant des combats, l'ALS et l'armée israélienne prennent l'offensive contre le Hezbollah au Liban Sud. Dans les territoires occupés, la lutte continue pour savoir qui contrôle effectivement le terrain. Les commerçants sont pris en tenaille entre les insurgés et l'armée d'occupation qui impose chacun de leur côté ouverture et fermeture. Au 9 mai, selon un décompte palestinien, on serait à 180 tués et 1410 blessés palestiniens. Dans la seconde quinzaine du mois, les Israéliens tentent une timide normalisation de la situation en autorisant une ouverture partielle des écoles, mais cela ne dure pas. Un certain nombre de bâtiments scolaires ont été vandalisés par les militaires israéliens. Au mois de juillet, tous les établissements scolaires sont de nouveau fermés avant la fin de l'année scolaire. Au mois d'août, la rentrée scolaire de septembre est interdite. Rabin fera passer une ordonnance militaire interdisant les solutions de remplacement et imposant des peines allant jusqu'à 10 ans de prison et 5 000 $ d'amende pour les enseignants contrevenants qui continuent d'enseigner malgré l'interdiction des autorités israéliennes. L'affaire Moubarak Awad est très représentative des enjeux. Ce Palestinien chrétien de Jérusalem est né en 1943. Son père a été tué en 1948 par un tir israélien et la maison familiale a été perdue dans le conflit. Adolescent, il a été emprisonné quelque temps par les autorités jordaniennes. Grâce à des amis de la famille appartenant au milieu des notables de Jérusalem, il est parti en 1960 aux États-Unis faire des études supérieures. Il est très influencé par le mouvement des droits civiques. Il rentre en 1962 et devient un enseignant. Arrêté en 1969 par les Israéliens, on lui épargne une longue peine de prison à condition qu'il reparte pour les États-Unis. Il obtient la citoyenneté américaine en 1983. Il revient à Jérusalem cette année-là pour créer un mouvement de résistance non violente. Se revendiquant de Gandhi et de Martin Luther King, il devient un propagandiste et un organisateur inlassable. Il prône la constitution d'une société civile et la désobéissance non violente aux ordres des autorités d'occupation. Il refuse de condamner la lutte armée pour ne pas paraître s'opposer à l'OLP et se fait la défenseur de la constitution d'un État binational israélo-palestinien. Les nationalistes arabes l'accusent d'être un agent de la CIA, mais il a le soutien des personnalités nationales de Jérusalem. Il s'implique dans la défense des paysans palestiniens face aux confiscations des terres en vue de colonisation. En 1987, les Israéliens lui suppriment son droit de résidence à Jérusalem, sa ville natale. Il fait appel devant les tribunaux israéliens et ne dispose plus que d'un visa de tourisme renouvelé tous les 3 mois. Il est arrêté le 5 mai 1988. Le gouvernement israélien l'accuse d'être un faux pacifiste et l'un des instigateurs de l'intifada. Son affaire devient une affaire célèbre. Schultz intervient en sa faveur. La Cour suprême israélienne juge que le fait d'avoir la nationalité américaine lui fait perdre son droit de résidence à Jérusalem. Il est expulsé le 13 juin 1988 et s'installera aux États-Unis où il créera une ONG consacrée à la non-violence et il continuera d'intervenir dans ce sens dans le dossier palestinien. Son ONG existe toujours et lui-même vit toujours. Dernière nouvelle. Si le soulèvement a pour premier objectif la volonté de montrer qui contrôle le terrain et de prendre en main son destin, il faut lui donner une perspective politique fondée sur l'intégration des Palestiniens au processus de paix. Les Américains s'illusionnent sur la possibilité de faire émerger une direction palestinienne indépendante de l'OLP. Les seuls qui sont en possibilité de le faire sont les islamistes qui rejettent justement le processus de paix parce que les islamistes ont repris le programme original de l'OLP de libération de la Palestine par la lutte armée, mais ils en restent à la désobéissance civile comme les laïcs du Fatah. En revanche, l'OLP a fait du soulèvement l'instrument pour s'imposer sur la scène internationale comme seul représentant du peuple palestinien dans les négociations finales. La première étape est la convocation d'un sommet arabe extraordinaire qui renouvellerait les engagements du sommet de Rabat de 1974. Le roi Hussein a été profondément ébranlé par le 10e communiqué du commandement unifié, daté du 11 mars 1988, qui s'en prenait vivement à la politique jordanienne. Ses conseillers ont beau jeu de lui montrer que les différentes négociations secrètes avec les Israéliens étaient par nature improductives. Outre qu'elles échouent régulièrement sur les questions de procédure, jamais les Israéliens n'accepteront de rendre à la Jordanie la totalité de la Cisjordanie et de Jérusalem-Est. L'idée d'un désengagement définitif commence à s'imposer aux monarques. Donc la photo de manifestation avec drapeau palestinien. Au début de juin, Schultz fait une nouvelle tournée au Moyen-Orient. L'avis général est exprimé par Rabin. Du fait des élections prochaines en Israël et aux États-Unis, au mois de novembre, on ne peut se lancer dans aucune initiative politique. Le secrétaire d'État fait du Caire et non de Jérusalem le centre de ses navettes. Sans illusion, il expose plutôt son interprétation du conflit que de se perdre une nouvelle fois dans les questions de procédure. Je cite. Quel conflit israélo-arabe ? C'est la compétition entre deux mouvements nationaux pour la souveraineté sur une seule terre. Le conflit n'est pas la faute d'une partie ou de l'autre. Aucune partie n'a la seule responsabilité de le résoudre. Il n'y a pas de solution à bon marché ou sans douleur. Personne ne peut éviter des démarches difficiles. La continuation du conflit aujourd'hui vient de l'incapacité des Arabes et des Israéliens de se mettre de côté leurs préjugés, haine et rêve exagérés en faveur de règlements négociés. Le destin du sionisme et du nationalisme palestinien sont interdépendants, bien que nombreux sont ceux des deux côtés qui refusent de le reconnaître. Au lieu d'un dialogue politique entre Arabes et Israéliens, il y a une tendance croissante à aviver les différences et éviter les compromis. Il s'ensuit un appel à la négociation pour sortir de cette autodestruction mutuelle. Il faut concilier les rêves et les réalités. Les Palestiniens sont ainsi mis sur un pied d'égalité au moins apparent avec les Israéliens, avec la reconnaissance de leur existence nationale et la question de la souveraineté. Mais on voit mal quel compromis pourraient faire ceux qui ont presque tout perdu. Arafat a fait préparer par Bassam Abou Sharif, devenu l'un de ses conseillers, un document destiné à mettre les Occidentaux au pied du mur. Il décide de le publier sous le nom de son conseiller. Le texte est transmis à un journaliste du Washington Post, mais le journal refuse de le publier. Le chef de l'OLP décide alors un grand coup en le faisant distribuer à la presse internationale lors de l'inauguration du sommet arabe extraordinaire d'Alger le 5 juin 1988. C'est donc ce qu'on appelle le document Abou Sharif. C'est une mise à l'épreuve des intentions occidentales et avant tout américaines, en même temps que le lancement d'un débat interne à l'OLP. Il s'agit de mettre en relief les objectifs communs des Palestiniens et des Israéliens, c'est-à-dire la paix et la sécurité. Je cite. Les Palestiniens veulent cette sorte de paix durable et de sécurité pour eux et pour les Israéliens parce que personne ne peut construire son avenir sur les ruines d'un autre peuple. Fin de citation. Les Israéliens veulent des négociations directes, les Palestiniens aussi. Début de citation. Les Palestiniens sont d'accord. La clé pour le règlement israélo-palestinien tient en des négociations entre les Palestiniens et les Israéliens. Les Palestiniens se tromperaient s'ils pensaient que leurs problèmes avec les Israéliens peuvent être résolus dans le cadre de négociations avec les non-Israéliens, y compris les États-Unis. De la même manière, les Israéliens et aussi le secrétaire d'État George Shultz se tromperaient s'ils pensaient que les problèmes d'Israël avec les Palestiniens peuvent être résolus par des négociations avec des non-Palestiniens, y compris la Jordanie. Fin de citation. Ce n'est pas aux Palestiniens de désigner leurs interlocuteurs israéliens. De même, les Israéliens n'ont pas à choisir leurs interlocuteurs israéliens. Que l'on fasse un référendum sur contrôle international dans les territoires occupés pour voir si les intéressés désigneront d'autres représentants que ceux de l'OLP. L'OLP, qui est une organisation démocratique, acceptera alors les résultats. L'OLP accepte les résolutions 242 et 338, mais elles sont insuffisantes, car elles ne comprennent pas la mention des droits nationaux du peuple palestinien notamment le droit à l'autodétermination, d'où sa demande de prendre en compte l'ensemble des résolutions de l'ONU qui comprennent les droits nationaux. Je cite. Par ailleurs, s'il existe une crainte qu'un État palestinien constitue une menace pour son voisin, le caractère démocratique de l'OLP devrait l'écarter. Même si cela est jugé insuffisant, les Palestiniens seraient ouverts à l'idée d'une brève période transitoire mutuellement acceptable durant laquelle un mandat international administrerait les territoires occupés jusqu'à l'établissement d'un État démocratique palestinien. Bien plus, les Palestiniens acceptent en vérité les demandes des garanties internationales pour tous les États de la région, y compris la Palestine et Israël. C'est dans cet esprit que nous demandons que les conversations bilatérales de paix avec Israël soient conduites dans le cadre d'une conférence internationale sous les auspices des Nations Unies. Fin de citation. Étant donné la disproportion des forces, ce sont les Palestiniens qui demandent la protection d'une force internationale sur le côté palestinien de la frontière. Début de citation. Le temps joue contre la paix. De nombreux Israéliens en sont convaincus et tentent de le faire admettre à leur peuple. De l'autre côté, nous sommes immédiatement prêts à la paix et nous pouvons atteindre cet objectif. Notre espoir est que l'opportunité qui se présente aujourd'hui ne soit pas manquée. S'il était manqué, nous n'aurions d'autre choix que de continuer à exercer notre droit légitime, à résister à l'occupation, notre objectif ultime étant d'assurer une existence libre, digne et sûre, non seulement à nos enfants, mais encore aux enfants des Israéliens. Fin de citation. La force du document est qu'il est bâti sur la symétrie et la complémentarité entre Israéliens et Palestiniens, ce qui lui donne un grand impact rhétorique. Au sommet d'Alger, le roi Hussein peut sentir son isolement contrastant avec le rôle majeur qu'il avait joué lors du sommet de Amman l'année précédente. Dans une longue intervention, il tente de faire comprendre qu'on ne peut pas exiger comme préalable à la conférence internationale de paix la création d'un État palestinien indépendant et une délégation palestinienne séparée. Il se montre toujours ouvert au plan Schulz, mais surtout il indique que son pays se pliera à la règle de l'unanimité. Nous n'avons aucune ambition sur la moindre parcelle de la terre de Palestine, si petite soit-elle. Nous n'avons pas d'autre objectif ou ambition que de libérer le territoire palestinien et de permettre au peuple palestinien de déterminer son destin. La Jordanie n'a pas l'intention de négocier le règlement de paix à la place de l'OLP. Fin de citation. Dans l'entourage du monarque, on laisse entendre que la Jordanie est prête à rompre tous les liens avec la Cisjordanie, y compris les aides financières et le paiement des fonctionnaires. En fait, il s'agit d'un avertissement. L'aide arabe aux Palestiniens décidée au sommet de Bagdad devait passer par un comité conjoint Jordanie-OLP. Or, avec le contre-choc pétrolier, les contributeurs ont de plus en plus de répugnance à payer, ce qui contraint la Jordanie à s'endetter. Contrairement aux attentes du monarque, le sommet renouvelle bien les aides, mais exclusivement par l'intermédiaire de l'OLP. Les résolutions du sommet proclament un appui multiforme au soulèvement, réclament une conférence internationale de paix avec l'OLP en égalité de statut avec les autres parties et la mise sous contrôle de l'ONU des territoires pour une période transitoire. Dans les territoires, le commandement unifié, dans son communiqué numéro 20, salue les décisions du sommet d'Alger. Je cite, « Les décisions du sommet de soulèvement d'Alger sont ainsi venues souligner les changements imposés aux mandarins par le soulèvement et qui ont conduit à reprendre en considération notre peuple et sa cause. Les décisions politiques du sommet d'Alger concordent avec les mots d'ordre du soulèvement. Elles ont infligé une gifle sanglante à la politique américaine dans la région et ont fermé la voie aux tentatives de Schulz de faire passer son plan. Elles ont réaffirmé les droits nationaux de notre peuple au retour à l'autodétermination et à l'édification de l'État palestinien indépendant. » Fin de citation. En revanche, le Hamas ignore les résolutions. Dans son communiqué numéro 25 du 7 juillet, le Hamas évoque surtout les camps de détention organisés par les nazis juifs, entre guillemets. Je cite. Malgré tout cela, le peuple palestinien continuera à frapper les juifs en tout endroit jusqu'à obtenir de son droit. Le soulèvement béni se poursuivra, quitte à ce que le peuple palestinien tout entier soit mis dans des camps de détention, et même si le sommeil des régimes arabes se poursuit pendant que notre peuple palestinien se fait immoler. Le peuple palestinien en terre occupée sait que le chemin de la délivrance de l'occupation passe par le djihad ininterrompu. Ceux qui nous entourent percevront même plus tard ce que nous avons déjà réalisé, alors que le peuple palestinien à l'intérieur de la Palestine se fraye son chemin et affronte les forces d'occupation en une lutte violente et tenace. Fin de citation. En ce mois de juin, l'ampleur des incendies de pâturage et de forêt en Israël même laisse supposer l'existence d'une nouvelle forme de lutte palestinienne, bien que rien ne soit prouvé. Le niveau de violence reste élevé. Le document Abou Sharif est publié dans la presse arabe à la fin du mois, provoquant un tollé de protestations de la part de l'opposition palestinienne et le trouble au sein de la direction de l'OLP. Abou Iyad trouve cette publication inopportune et Arafat reste volontairement en retrait. Le département d'État le trouve généralement constructif, mais demande de savoir si cela correspond à la position officielle de l'OLP. Des organisations juives américaines se montrent enthousiastes. Shimon Peres ne veut pas accepter que le sommet d'Alger marque la fin de l'option jordanienne. Le 1er juillet, le ministère jordanien chargé des affaires administratives des territoires occupés est fermé et ses compétences transférées au ministère des Affaires étrangères. Au 8 juillet, nouveau le 9e mois de l'intifada, le nombre de Palestiniens tués par balle s'élève à 204. Cette période qui correspond au mois de Ramadan est particulièrement sanglante. Les 20 et 21 juillet, 6 Palestiniens sont tués par balle et plusieurs dizaines de blessés. Les fouilles archéologiques israéliennes à proximité de l'esplanade des mosquées à Jérusalem créent un nouveau foyer de tension, les musulmans y voyant une menace pour la mosquée Al-Aqsa, ce qui est leur grande angoisse. À la fin juillet, l'Iran annonce qu'il accepte la résolution 598 sans condition préalable, ce qui met fin à la première guerre du Golfe. L'ONU met immédiatement en place les moyens pour assurer un cessez-le-feu effectif qui entrera en vigueur le 20 août 1988. C'est une modification importante de la géopolitique régionale. Israël s'inquiète immédiatement du danger de voir l'Irak, apparemment vainqueur, retourner sa politique vers le Proche-Orient. C'est dans ce contexte que le roi Hussein procède au désengagement de la Jordanie. Le 26 juillet, Peres, alerté, lui envoie une lettre l'adjurant de ne pas le faire. Le roi répond le lendemain à son cher ami que la Jordanie se désengage à la gestion d'un peuple sous occupation, mais non du processus de paix et du projet de conférence internationale. Le 28 juillet, le plan quinquennal de développement de la Cisjordanie est supprimé. Le 30 juillet, le Parlement jordanien, où siègent 30 députés palestiniens de l'intérieur, est dissous et tous les liens légaux et administratifs entre la Jordanie et la Cisjordanie sont rompus. Le 31 juillet, dans un discours à la Nation, le roi Hussein explique la décision. Il rappelle le sommet de Rabat de 1974 et l'acceptation du libre choix du peuple palestinien. Je cite. Dès lors qu'il existe une conviction unanime que la lutte pour la libération du territoire palestinien occupé pourrait être renforcée par la rupture des liens juridiques et administratifs entre les deux rives du Jourdain, il est impératif pour nous d'accomplir notre devoir et d'exécuter ce qui nous est demandé. Fin de citation. Cela ne s'applique pas aux Jordaniens d'origine palestinienne. Début de citation. La Jordanie n'est pas la Palestine. L'État palestinien se constituera sur le territoire palestinien occupé après sa libération. L'un s'incarnera l'identité palestinienne, comme le confirme l'intifada glorieuse du peuple palestinien contre le joug de l'occupation. Fin de citation. Cette décision capitale a été prise sans consultation avec l'OLP, qui se trouve mis devant le fait accompli. Mise plutôt. Tout en recentrant son royaume sur son identité transjordanienne, le monarque met au défi l'OLP d'avoir à gérer les territoires occupés sans lui. La dimension la plus concrète est la fin des versements de salaires aux fonctionnaires palestiniens et l'octroi de passeports. Néanmoins, juridiquement, l'acte d'union de 1950 n'est pas remis en cause et les mesures prises ne sont que d'ordre administratif. De plus, le roi, en descendant du prophète, ne remet pas en cause ses droits religieux sur Jérusalem. Les fonctionnaires religieux de la ville sainte continuent de recevoir des traitements jordaniens. Israël et les États-Unis espèrent voir dans la décision jordanienne une manœuvre tactique destinée à mettre les Palestiniens au pied du mur et les conduire à rappeler le roi Hussein. Mais ils se rendent compte rapidement que le monarque s'oppose à toute démarche spontanée dans ce sens. C'est un revers considérable pour les travaillistes qui croient toujours en l'option jordanienne tandis que le Likoud y voit le moyen de maintenir son immobilisme. Il est maintenant clair que le seul interlocuteur possible pour un règlement est l'OLP. Donc on va arriver au document Husseini, puis éventuellement à la charte du Hamas. Faisal al-Husseini n'a été libéré que depuis 2 mois, quand la police israélienne, ce même jour 31 juillet, perquisitionne à son bureau et trouve un document politique constituant un projet de règlement. Il prône la constitution d'un État palestinien avec les frontières du plan de partage de 1947 et la double reconnaissance, sa capitale sera Jérusalem. Durant la période d'intérim, l'OLP constituera un gouvernement en exil, tandis que les communautés populaires de l'intifada constitueront la base de l'infrastructure du nouvel État. Les représentations de l'OLP deviendront des ambassades. Il s'agit en fait d'un projet de déclaration d'indépendance rédigé par Sari Nusseibeh, qui donne ainsi une large part du futur gouvernement aux Palestiniens de l'intérieur, ce qui est évidemment mal vu par Tunis. Faisal al-Husseini est de nouveau mis sous arrestation et des intimidations sont exercées sur les autres personnalités palestiniennes pour qu'elles se tiennent éloignées de toute déclaration d'indépendance. Cela est d'autant plus facile que le document Husseini comprenait la liste des gens devant composer la direction de l'appareil administratif à créer. Les 152 noms cités comprennent des gens qui affirment ne pas avoir été consultés au préalable. Le communiqué numéro 24 du commandement unifié du 22 août marque le désarroi des personnalités nationales interdites d'initiative politique par l'intimidation israélienne et qui ne peuvent plus qu'implorer l'OLP d'agir. Je cite. Le commandement national unifié adresse ses salutations à notre Conseil national appelé en session d'urgence. Il est convaincu que le Conseil votera un programme politique clair et complet, susceptible de mobiliser le soutien international le plus large en faveur des droits nationaux de notre peuple et qu'il les fera les pas pratiques susceptibles de soutenir le soulèvement et de le développer. Nous réaffirmons également que l'interprète politique des aspirations de notre peuple est l'OLP et ses organes centraux et que la juste solution de notre cause adviendra à travers la légalité internationale incarnée par la Conférence internationale souveraine à laquelle assistera l'OLP sur un pied d'égalité. En revanche, dans son communiqué numéro 28 du 18 août, le Hamas dénonce la vanité d'un tel projet. Je cite. La question de savoir qui obtiendra la Palestine et qui dirigera ses affaires ne sera envisageable que lorsque l'agression aura cessé et que l'épreuve aura été levée après la libération d'Acre et de Jaffa. On sera parlé de Gaza, de Jénine et du lieu de voyage nocturne de l'apôtre de Dieu, c'est-à-dire Jérusalem, cœur de la Palestine. Alors seulement il conviendra de dire qui prend en charge le pays. Mais lorsque cette question est posée, alors même que l'ennemi est fiché dans votre poitrine, qu'il tue et détruit, qu'il emprisonne et démolit, qu'est-ce que cela signifie sinon encore plus d'étouffement et de gêne à l'exemple de Jacob ? La concertation se fait sur la constitution d'un gouvernement en exil. Israël annonce sa réaction et menace de l'écraser. La réflexion sur les choix des hommes de l'État attendus comme à l'extérieur comme à l'intérieur. Les mouvements diplomatiques sont lancés poursuite d'une solution pour ce qu'on appelle les problèmes du Proche-Orient après avoir fini du problème des Afghans ou de la guerre du Golfe. C'est donc maintenant au tour du problème de la Palestine, de la solution politique, de la table de négociation et de la conférence internationale pour que les Palestiniens signent l'acte de propriété des Juifs sur la terre des anciens et des ancêtres. Tout cela sera une marque d'infamie, ce qui est souligné dans le texte, sur le front du peuple palestinien musulman. Fin de citation. Le même 18 août, le Hamas publie sa charte, étape essentielle de sa constitution et écho des deux chartes de l'OLP, 1964 et 1968, mais surtout manifeste politique. Cette charte exprime la vision du monde des frères musulmans avec plusieurs références au mouvement. L'islam est défini comme une règle de vie qui couvre tous les aspects de l'existence et toutes les appréhensions de l'univers. Dieu est son but, l'apôtre est son modèle et le Coran sa constitution. La spécificité du Hamas est définie ainsi, je cite, « Le mouvement de la résistance islamique est un mouvement palestinien spécifique qui fait allégeance à Dieu, fait de l'islam sa règle de vie et œuvre à planter l'étendard de Dieu sur toute parcelle de la Palestine. À l'ombre de l'islam, les fidèles de toutes les religions peuvent coexister en toute confiance et sécurité pour leur vie, leurs biens et leurs droits. En l'absence de l'islam, les luttes apparaissent, la justice se développe, la corruption se répand, les conflits et les guerres surviennent. » Fin de citation. Le Hamas lutte contre la corruption humaine qui s'est généralisée parce que l'islam a disparu de la réalité de la vie. Il lutte contre l'injustice et pour la vérité. L'article 11 définit la Palestine comme une terre islamique waqf, c'est-à-dire inaliénable parce que vouée au service de Dieu. C'est une invention de la tradition, parce que si la Palestine a toujours été considérée comme étant la terre sainte à défendre contre les agresseurs, cette notion de waqf est une totale nouveauté. On l'attribue aux conquérants musulmans du 7e siècle en faisant probablement une confusion avec la notion de propriété éminente de la terre par l'État dans les premiers siècles de l'islam. Puisque Dieu est souverain de la Palestine, il n'est pas possible de transiger en faveur des infidèles et le djihad s'impose à tous comme devoir religieux. On reprend l'idée des trois cercles popularisés par Nasser comme espace d'action. Ici, c'est le cercle palestinien, le cercle arabe et le cercle islamique. On prend exemple de la lutte contre les croisés qui passe par une éducation purement islamique, article 15, et on prend le thème de l'invasion culturelle chère aux frères musulmans égyptiens. Je cite. Face à l'usurpation de la Palestine par les Juifs, il faut brandir l'étendard du djihad et cela nécessite la diffusion de la conscience islamique parmi les masses locales arabes et islamiques. Il faut propager l'esprit du djihad dans la nation, l'engagement face aux ennemis et l'adhésion au rang du combattant du djihad. Il faut que les ulémas, les éducateurs, les enseignants, les hommes des médias et de communication, les masses d'intellectuels et tout particulièrement les jeunes des mouvements islamiques et leurs aînés s'associe à cette opération de conscientisation. Il faut introduire des changements essentiels dans les programmes d'enseignement, les épurer de toute trace de l'invasion intellectuelle qui les ont livrés aux mains des orientalistes, ça c'est dur pour ma profession, et des missionnaires chrétiens. Cette invasion dans la région est menée depuis la défaite des armées croisées par Saladin. À ce moment, en effet, les croisés ont pris conscience qu'il leur était impossible de défaire les musulmans s'ils ne menaient une invention intellectuelle au préalable, s'ils ne menaient pas à la confusion dans leurs pensées, s'ils ne défiguraient pas leur héritage culturel et calomniaient leurs idées. Cela ne serait qu'après cela seulement que l'invasion se ferait avec les soldats. Donc le culturel précède le militaire. Donc inversement, la lutte culturelle est un préalable à la lutte militaire dans la pensée frère musulman Hamas de la fin des années 80. Selon la mythologie des frères musulmans, Allenby en 1917 et Gourou en 1920 se sont proclamés continuateurs des croisés. Les femmes jouent un grand rôle dans l'éducation des jeunes générations, d'où la volonté de l'ennemi de les éloigner de l'islam. L'article 17 définit les institutions qui servent à ce complot culturel en jouant sur les différents médias, en particulier les films. Je cite, ils agissent par l'intermédiaire de leurs créatures, membres de ces organisations sionistes aux noms et formes multiples, comme la franc-maçonnerie, les clubs Rotary, les sections d'espionnage, etc., qui sont tous des nids de subversion et de sabotage. Ces organisations sionistes disposent de ressources matérielles considérables qui leur permettent de jouer leur rôle au sein des sociétés visant à atteindre des objectifs sionistes et à enraciner les concepts qui servent l'ennemi. Pour agir, ces organisations profitent de l'absence de l'islam, de la scène publique et de son étrangeté pour les gens. Il revient aux islamistes de tenir leur rôle dans la confrontation avec les menées de ces saboteurs. Le jour où l'islam aura pris le contrôle de l'orientation de la vie, il anéantira ces organisations hostiles à l'humanité et à l'islam. Alors, pour mémoire, le premier Rotary Club du Moyen-Orient a été inauguré en 1929 au Caire, en même temps que le Rotary Club de Jérusalem. On rejette tous ceux qui peut y avoir des païens, jaïli en arabe. On vante la solidarité qui relie les musulmans entre eux dans un esprit d'équité, alors que l'on affronte un ennemi à la cruauté nazie dans ses pratiques exprimées par la multiplicité des châtiments collectifs. Je cite. Le nazisme des juifs vise également les femmes et les enfants. Il terrorise l'ensemble de la population, s'attaque au gagne-pain des gens, pille leurs biens et menace leur honneur par leurs actes monstrueux. Il se comporte avec les gens comme les pires criminels de guerre. Le bannissement loin de la patrie constitue l'une des formes de meurtre. Fin de citation. Dans l'article 22, on passe au vaste complot mondial dans l'histoire, cette fois très net écho de l'antisémitisme européen. Les ennemis règnent sur les médias du monde entier grâce à leur richesse. Ils sont derrière les révolutions comme les révolutions françaises et russes. Ils sont responsables de la Première Guerre mondiale. Ils ont gouverné, afin d'obtenir la déclaration Balfour, ils ont gouverné le monde par le biais de la Société des Nations. Ce sont eux qui fomentent les guerres dans le monde. Dans la liste des organisations secrètes, on trouve outre la franc-maçonnerie, le Rotariste, le Lions Club, comme ça il n'y a pas de jaloux, et le Mnebrief, c'est-à-dire la franc-maçonnerie d'inspiration juive. Il est à noter que dans cet article, les juifs ne sont pas nommément cités. Alors j'arrêterai ici ce discours, parce qu'on terminera l'analyse des manifestes la fois suivante. Vous noterez que le discours frères musulmans de la fin des années 80 n'a rien à voir avec le discours très modéré des frères musulmans de 2011. Il y a un changement extrêmement considérable de ton entre les deux discours. Je vous remercie.